inclinada, Canal Espagnol.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse Girls.
Kia ora, good evening, bonsoir, vous êtes sur Amuse Gueule, l'émission francophone et francophile d'Auckland, 105.6 FM sur Planète FM. Bienvenue à Fred et Steph.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis David, en petit comité, on est en pré-enregistré, donc ne nous appelez pas ce soir, on pré-enregistre pour dimanche qui vient, en fait, c'est dans pas longtemps, c'est le 29 septembre.
Premier dimanche du printemps.
Voilà. Et puis c'est le dimanche de premier dimanche des vacances aussi.
Parce que les Kiwis disent que le printemps commence le 1er septembre, mais cette année il a commencé le 23 septembre à 7h50 du soir. Ok. Donc ça y est, on est au printemps.
Comment on sait ça?
C'est l'équinoxe. C'est le jour où le soleil passe au-dessus de l'équateur.
C'est pas le 21 septembre.
Mais ça varie un peu parce que la Terre elle wobble un peu. Toi. Ah, donc,
t'as un wobble toi.
C'est aussi pour ça que...
Parfois c'est le 20, parfois
mais
c'est le 22,
Mais les Kiwis, ils ne connaissent pas l'équinoxe et le truc du printemps, le truc de...
C'est parce qu'ils n'ont jamais mesuré la longueur du jour chez
non,
eux.
Non, ce qu'ils font, c'est ils font 1er septembre, 1er mars, 1er machin.
L'équinoxe, 23 septembre, 7h50 du soir, c'est fait. Voilà. On est au printemps. Bienvenue au printemps.
Mais quoi qu'il y a quelque chose de rigolo avec l'été, si c'est le plus haut l'été.
Printemps.
Non, mais pour l'été, le solstice, c'est solstice d'été, solstice d'hiver. Hein.
Ouais.
C'est un peu bizarre que l'été commence au plus haut, puisque ça devrait être à la moitié. Donc c'est pour ça que je comprends un peu l'équilibre.
Non, mais c'est
part.
Parce qu'en fait, la terre.
Il y a une inertie thermique, toi.
Voilà. L'eau de la mer est plus chaude à l'automne qu'en été.
Oui.
Parce qu'elle met un certain temps à chauffer, toi. Voilà. Donc l'été, il commence à faire chaud, comme.
D'accord. Donc le solstice d'été si comme hiver, c'est bien.
Si on faisait une spéciale astronomie aujourd'hui,
en fait, c'est ça
une spéciale
faire,
BD. Quoi.
Non, on va faire une spéciale BD.
Bon, on va parler d'astronomie dans la BD. Un autre jour. On
n'a
pas d'annonce pour dimanche qui vient.
C'est les vacances, bienvenue au printemps.
Tout. Bienvenue au printemps.
Il y a un super concert.
Ah.
Mais ça commence à 7h.
Le 29 septembre, juste après la radio. Hein.
Voilà.
Comment ça s'appelle? Imperfect Offering de Music of Leonard Cohen à Q Theater.
Et ben voilà, donc écoutez-nous jusqu'à 7h. Pétante et soyez...
Voilà, ils chantent des chansons de Leonard Cohen depuis des années, ils le font ça pas mal.
Et on connaît un des chanteurs. Un des joueurs de musique, pardon.
Voilà, qui habite d'ailleurs dans le quartier de la radio.
Bravo, on devrait l'inviter. Mais c'est anglais, là.
Leonard Cohen.
Ouais.
Voilà.
Et on se passait un petit jazz français. C'est monsieur Jackie Terrasson et monsieur Stéphane Belmondo.
Il a un rapport avec monsieur Belmondo?
Non, pas du tout. Non, mais il a un frangin qui s'appelle Belmondo, un papa qui s'appelle Belmondo, qui faisait aussi du jazz. Lui, il fait de la trompette.
Rien à voir avec Bébel, quoi.
Non. Mais ils ont peut-être des racines italiennes en commun ou corse en commun. Oui, donc Belmondo, Stéphane, lui, est trompettiste, je crois. Il fait du bugle aussi. Non, Stéphane, Belmondo. Et son papa faisait du saxo. Et Jackie Terrasson, c'est un pianiste, je crois, oui. Enfin, écoutez ça, ça s'appelle La chanson d'Hélène. C'est très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, on passe ça tout de suite.
Thank you.
Voilà, voilà, la chanson d'Hélène par monsieur Jackie Terrasson et monsieur Stéphane Belmondo. C'est beau, puis c'est triste. Introduction jazz. Oui. Fred, tu veux passer en, en premier ? On fait une spéciale BD, oui. Ouais, j'ai oublié de vous dire, le thème, c'est quand même la spéciale BD.
La musique va bien avec la première BD dont je vais parler. Parce que
parlez bien au micro, sinon on ne vous entend pas.
Donc, je voulais parler, la BD, ça s'appelle « Il fallait que je vous dise ». Alors...
que je vous dise quoi ?
David, je suis désolée, j'ai pas la BD avec moi parce que je pense que je l'ai prêtée. En tout cas, je l'ai pas retrouvée au moment de partir. Et c'est une BD. Donc, il fallait que je vous dise. Et en fait, c'est une BD de Aude Mermillon. Et c'est sur l'avortement.
Et... j'ai jamais lu ça. Je suis pas sûre que elle est perdue depuis longtemps.
Non, je viens de l'acheter. Elle est parue en avril 2019, pardon, le 24 avril 2019 chez Casterman. Et donc c'est une BD tout en finesse et.
Ah, je sais où elle est. Et dans un sac rouge, là, au fond de la pièce.
Non, j'ai cherché dans le sac rouge.
Ils vivent ensemble. Pour ceux qui ne savent pas, à la technique, Steph, et à la radio, à l'émission Fred, ils vivent ensemble. Il n'y a pas de bazar.
Bonjour. Voilà. Donc, bref, je voudrais vous parler d'un sujet important. C'est donc, et c'est aussi un clin d'œil à Elsa, qui faisait partie de la radio il y a longtemps, et qui m'avait introduite à la BD féministe. Et donc c'est
ah pas bon, une... t'as eu besoin de quelqu'un.
t'avais jamais eu besoin d'elle avant.
Non, mais c'est dans la même veine. En fait, Aude Mermillon, c'est quelqu'un de très nuancé, qu'on note pas comme certaines personnes.
Elle fait que de la BD, elle fait des livres aussi.
C'est l'autrice, Aude Mermillon.
Oui, voilà. Mais donc c'est pas son histoire. C'est l'histoire de la rencontre d'une femme qui s'est fait avorter et d'un médecin avorteur. Et qui n'a pas commencé par être avorteur, mais qui petit à petit est devenu, il est avorteur. Ça veut dire que et de plus en plus.
Un mot français, c'est avorteur.
Il a fait de plus en plus d'avortements. Il a pratiqué de plus en plus d'avortements. Et en fait, c'est une histoire. La BD est vraiment bien écrite et bien faite parce que on a tous des idées préconçues sur l'avortement. Surtout les gens qui ne l'ont jamais vécu, je pense.
Bah, les garçons peut-être un peu plus que les filles, parce que les garçons ont un peu plus de mal à avorter.
Oui,
mais qu'est-ce que tu appelles idée préconçue, pour ou contre, ou des choses plus spécifiques?
Par exemple, moi je suis entièrement pour la dépénalisation de l'avortement, pour le fait que c'est le choix de la femme, mais j'ai toujours dans l'idée que parfois il y a quand même moyen d'éviter de tomber enceinte. Et comme ils disent dans le quatrième de couverture, en français on dit tomber enceinte, et donc il y a quand même le fruit du hasard. Et en fait, dans cette BD, ils expliquent vraiment bien le point de vue de la femme qui se retrouve dans la situation de devoir subir un avortement, parce que c'est un traumatisme. Et alors aussi le cheminement de ce médecin qui au départ juge quand même un peu les femmes, et donc il rencontre notamment une infirmière au début de l'histoire qui lui explique, qui l'aide à comprendre la situation dans laquelle se retrouvent ces femmes et à s'ouvrir un peu à leur histoire et à savoir comment les aider.
Il n'est pas contre au départ, c'est juste qu'il comprend pas ou il n'a pas envie.
Il n'est pas contre l'avortement, mais il y a quand même au fond de lui quelque chose qui se dit que quelque part elles se sont quand même mises dans cette situation. Et en fait, le cheminement est très joli. Je trouve que c'est une jolie histoire.
Est-ce que c'est autant sur le chemin du docteur que sur le chemin de... C'est une seule femme, un seul avortement
En fait, oui, c'est vraiment... c'est la rencontre de cette femme qui s'est fait avorter assez tôt dans sa vie.
Mais pas par le docteur.
Non, et alors elle se rend compte et elle et puis il y a ce médecin qui s'est fait une réputation comme étant un spécialiste de l'avortement. Ouais. Et donc, il y a cette rencontre.
Mais dans le cadre de la BD, c'est légal ou c'est illégal?
Oui, non, c'est complètement légal. Okay. Parce que c'est une BD canadienne. Hein, donc, c'est légal au Canada.
Non, mais je veux dire, le médecin le pratique dans l'histoire, le médecin le pratique légalement.
Voilà, mais il y a différentes façons de le faire. C'est que par exemple, il y a quand même le médecin a le droit de refuser, puisque c'est une de ces pratiques où le médecin a le droit de refuser de la pratiquer. Et envoyé chez les confrères. Il n'est pas obligé de pratiquer l'avortement.
Bah, lui le fait.
Ouais. Mais donc, en fait, c'est aussi ça qui se passe. C'est que c'est pas, les médecins ne sont pas obligés de le pratiquer, puisque ça peut être à l'encontre de leurs convictions religieuses, philosophiques.
Ça me semble raisonnable.
Oui, mais du coup, il y a déjà une tension au départ. Par exemple, pour une femme qui veut avoir un avortement, il faut qu'elle choisisse le médecin chez qui elle va. Elle peut pas aller chez n'importe quel médecin et dire bonjour, je voudrais un avortement, ça va pas marcher.
Bah, quand tu vas voir un spécialiste, tu sais pas non plus chez qui tu tombes, quoi. Tu vois, que ce soit pour les yeux ou pour le pied.
Oui, mais il va pas te refuser de te prescrire une crème. C'est pas contre sa philosophie.
Il peut être plus ou moins bon, et donc, tu peux te demander est-ce que c'est le bon, quoi.
Il y a quand même une autre dimension dans le fait d'arriver. T'es dans une situation fragile en tant que femme.
Ouais, tu vas demander un avortement.
Beaucoup
cherches,
plus que si t'as des mycoses sur les pieds.
Si tu cherches un médecin qui fait l'avortement, j'imagine que tu vas avoir une liste de médecins qui font l'avortement. Tu vas pas, a priori, tu vas pas tomber sur un médecin qui ne le fait pas. Quoi.
Mais justement, je pense que
je crois que je sais pas au Canada, mais il y a beaucoup de pays. Inclus ici, tu as le droit de refuser.
Bah oui, c'est ce que je dis. Et donc,
si tu cherches avortement.com, tu vas avoir la liste des médecins qui font ça.
Pourrais terminer mes phrases, s'il vous plaît. C'est pas, t'as pas des listes de médecins qui vont pratiquer l'avortement. T'as pas toujours le choix dans certains villages reculés. Tu vas avoir un médecin. Et puis même si tu vas chez un médecin qui n'a pas dit ouvertement qu'il refuse l'avortement, tu n'es pas sûr qu'il va complètement accepter ta situation. Il y a quand même une situation précaire dans le cas de cette femme-là, elle a eu un avortement et puis en fait il y a eu des effets secondaires et donc elle a été en urgence et c'est là où ça se passe pas bien, c'est qu'elle va en urgence et que le médecin n'est pas aussi conciliant et donc elle se retrouve dans une situation compliquée.
Donc c'est le suivi de l'avortement autant que l'avortement lui-même
qui
est en question.
Et voilà, et en fait, donc ce médecin au départ décide de vouloir aider ces femmes, notamment en faisant de la prévention pour pas qu'elles tombent enceintes. Oui. Et avec cette discussion avec l'infirmière, notamment, il se rend compte que le problème n'est pas là, en fait.
Mais la madame, elle, dans la BD, elle fait cet avortement avec un médecin autre que celui dont tu parles.
Ouais, voilà.
Et à quel moment ces deux personnes interagissent quand même ou c'est juste leur histoire séparée?
Non. Donc en fait, c'est une histoire qu'ils racontent ensemble, en fait, sur leur cheminement.
Donc à un moment donné, elle rencontre ce médecin-là ou...
Oui, donc la femme qui s'est fait avorter rencontre ce médecin bien après son avortement et donc décide d'écrire sur l'avortement. Et donc, il fallait que je vous dise. Et donc, c'est leur cheminement à tous les deux.
C'est autobiographique ou...
Oui, pour les deux.
Ah, donc la femme et le médecin sont auteurs de la BD.
Ils sont auteurs d'un livre et Aude Mermillon a fait la BD.
Ok,
voilà.
Ok.
Donc
Aude Mermillon, c'est pas la femme ni le médecin.
Je ne sais plus.
Le type de dessin est assez...
Non, Aude c'est la femme en fait. C'est celle qui est...
Donc c'est son histoire. Elle est canadienne.
Voilà, et donc elle raconte son histoire de son avortement et en même temps de sa rencontre avec ce médecin qui lui a fait plus ou moins des avortements toute sa vie. Donc, et a fait aussi ce cheminement pour comprendre mieux pourquoi est-ce que autant de femmes se retrouvent dans cette situation en fait. Et comment est-ce qu'ils peuvent vraiment les aider, et c'est pas en leur disant qu'elles auraient pu éviter d'être enceintes.
Mais il continue à faire de la prévention ou il a arrêté après?
Non, il fait de la prévention aussi, mais autrement.
Et c'est quoi le autrement, pour vous donner un truc aux filles d'ici? Ce serait quoi le mieux?
Non, mais en fait, une des explications, c'est que, par exemple, une des phrases qui m'a frappée, c'est que il y a des femmes qui, oui, elles savent comment éviter d'être enceintes, mais elles sont dans des situations où quelque part elles ont envie, et puis après elles se rendent compte que ça sera pas possible. Et donc c'est une tension parce que, enfin.
Entre l'envie et la réalité.
Et la réalité, voilà. Et donc, c'est compliqué. c'est pas juste il suffit de pas tomber enceinte, c'est aussi cette envie de vouloir être une femme et puis être une mère aussi.
Oui.
Et savoir aussi que pour les femmes, elles vont pas pouvoir avoir des enfants pour toujours.
Il y a une
question de timing. Et puis et donc c'est beaucoup plus complexe pour s'il n'y a pas de père et puis aussi le fait que tu peux croire que l'homme avec qui tu fais un enfant c'est le bon père et puis quelques mois plus tard c'est plus possible,
ça va pas le faire
et donc il faut pas juger sur l'instant donc c'est pas toujours il y avait moyen de l'éviter.
Oui.
Ce qu'il faut aussi se dire c'est que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible pour la mère, enfin pour la femme qui est obligée de passer par cette...
Est-ce qu'il y a une conclusion sur aussi le après l'avortement, puisque tu dis que cette femme, elle a souffert, après l'avortement, elle a des complications, et ce sont les docteurs après qui sont...
En fait, dans son cas, c'était pas... il l'avait pas fait complètement et donc elle a eu des complications mais qui se sont réglées assez vite, mais je crois que même si je pense qu'une des conclusions c'est que même si c'est une opération anodine pour le médecin, parce que apparemment c'est pas très très compliqué à faire pour un médecin,
ça dépend lesquels, j'ai l'impression
il y en a que c'est plus ou moins, mais je pense que c'est important que la femme soit suivie et que il y en a pour qui ça peut être beaucoup moins traumatique et qu'il y en a pour d'autres ça peut être beaucoup plus traumatique, on peut pas savoir l'histoire et que donc ça vaut la peine, et donc ça c'est une des choses que le médecin comprend, c'est que ça vaut la peine d'essayer de comprendre et d'aussi avoir cette attitude où on juge la personne le moins possible et où on la met la plus à l'aise possible en disant c'est vraiment, il faut la lire parce que je pense que j'en parle pas aussi bien qu'eux ils le racontent et qu'elle l'a dessiné. Donc les dessins sont très beaux et l'histoire est très belle en fait.
Il y a beaucoup de textes ou les dessins parlent beaucoup ?
Les deux. Ouais.
C'est un gros pavé.
C'est un gros pavé, ouais.
D'accord.
C'est des BD comme tu l'aimes, où t'en as plus pour ton argent.
Plus pour ton argent.
Mais donc c'est beau parce que petit à petit, en fait, on se rend compte que le médecin en particulier, en fait, il fait vraiment un chemin qu'on a tous besoin de faire, je pense.
Mais c'est un chemin d'homme parce que c'est un médecin masculin.
Hein, oui,
c'est un chemin de médecin ou les deux. Est-ce qu'il y a le rapport à son sexe aussi ou en tant qu'homme ou plutôt qu'en tant que docteur tout le temps.
Je pense en tant qu'homme et en tant que médecin, c'est que par exemple, oui, cette façon de penser que son job en tant que médecin, c'est d'essayer d'empêcher ses grossesses d'arriver, et ça c'est pas possible.
Pas tout le temps possible.
Il y en a une partie, c'est possible. Donc je pense par exemple plus les accidents de parcours de jeunes,
oui,
de très très jeunes filles, mais je pense que quand oui, il y a toujours moyen de faire de la prévention, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des grossesses qui sont au départ désirées et qui après se rendent compte assez
vite. Et après sont doutées.
Voilà, et puis il y a tous les avortements thérapeutiques aussi, ça c'est un autre...
Est-ce que le livre parle du système canadien ? Est-ce que c'est un exemple, si on est un autre pays, je ne sais pas, les États-Unis, où ce n'est pas du tout le même système, j'imagine, moins de liberté, je lisais un commentaire où il y a... Dans les États américains, c'est des grands États. Il y a des États, c'est 5 fois la France, genre Texas. Souvent, il n'y a qu'une seule clinique d'avortement dans tout l'État. Donc, c'est-à-dire que si tu habites à Pétahouchnock, disons que tu habites à Marseille, il faut que tu te rendes à Paris ou à Lille pour être avorté. C'est la seule clinique dans tout l'État où il faut que tu... Et faut que tu attendes 48 heures, que tu couches à l'hôtel, que tu vois un médecin, un psychologue... que t'aies une lettre, si t'as moins de 18 ans, faut que t'aies une lettre des parents, machin. Enfin, en fait, ça raconte cet article que j'ai lu juste la semaine dernière, raconte le fait que met plus de bâtons dans les roues pour avorter qu'autre chose.
C'est plus facile d'acheter une arme aux États-Unis que d'avorter.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai mis sur mon Facebook.
Donc, c'est moi qui l'ai mis au départ.
Voilà, merci. Donc ça revient à ça ou c'est plus facile au Canada ?
Ça a l'air plus facile. Il n'y avait pas tellement l'accent sur quel est le système au Canada, mais c'était un système, j'ai l'impression, qui était similaire à la Belgique, enfin d'après ce que je connais à la Belgique.
Et en Nouvelle-Zélande.
Ou en Nouvelle-Zélande, sauf qu'en Nouvelle-Zélande, c'est pas tout à fait légal encore. Enfin, ça a commencé à changer. Oui, ça a changé récemment, là. Ils ont fait, c'est passé dans le troisième.
Ils étaient au troisième reading.
Non, non, c'est pas que l'avortement soit illégal ou légal, mais c'est parce que c'est pas le bon code. C'est jugé comme un pénalty meurtrier, alors que ça devrait être dans la santé. C'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de débattre ou de faire, c'est de dire. Il ne faut pas juger sous un code policier, il faut juger sur un code de santé. Et c'est ça le problème. Mais le droit à l'avortement est déjà là depuis 20 ans en Nouvelle-Zélande, mais pas sous le bon code.
Arrêtez, c'est un point très très important. C'est exactement le même problème qu'on a en Belgique, c'est que c'est encore dans le code pénal. Et qu'une des choses qui est très importante et qui n'est pas encore enlevée dans le code néo-zélandais, c'est que tu dois avoir une bonne raison pour avorter, et que la raison invoquée par 99% des femmes en Nouvelle-Zélande pour avorter, c'est le fait que ça met leur vie en danger, et notamment pour des problèmes de santé mentale. Et donc ça, c'est là qu'est le problème, c'est qu'en fait, dès que tu as avorté en Nouvelle-Zélande, ça veut dire que dans ton dossier médical, il y a un problème de santé mentale. Parce que c'est la seule façon...
C'est pas un dossier médical, c'est ça le problème, c'est un dossier pénal.
Oui, mais pour moi, c'est un énorme problème, David.
Oui.
Donc c'est pas encore complètement légal, parce que si c'était
c'était de changer ça.
Mais elle n'est pas passée.
Mais elle n'est pas encore passée.
Elle était au troisième reading, donc je sais pas trop. Mais
techniquement, c'est pas encore légal.
Mais c'était il y a un mois, il était au troisième reading, ça devait être fini. Non,
je pense que c'est passé maintenant. C'est en train de passer, mais c'était pour moi c'est un gros problème, parce que ça veut dire que quelqu'un qui est déjà en détresse doit en plus subir le fait qu'elle doit dire que sa vie va être en danger mentalement pour avoir le droit à l'avortement. Et ça, c'est un problème. Ça reste un problème.
Ça doit limiter quand même.
Ouais. C'est déjà quelqu'un qui est en détresse et qui doit en plus se farcir et se retrouver avec...
Le code pénal.
Le code pénal. Et le jugement est de devoir passer au travers de tous ces...
Alors qu'en Belgique, non. En France,
si, en Belgique, c'est encore...
qu'en France, non, c'est avec le médecin. Donc le médecin, il faut que tu le vois. Tu as une interview. Mais tu vois pas les flics, tu vois pas, et les raisons, si, vaut mieux que tu expliques que les raisons, c'est que tu peux pas subvenir aux besoins. Donc, mais c'est pas un côté pénal, c'est un côté.
Mais donc en Belgique, ils viennent de le sortir.
Social.
Ils viennent de le sortir du code pénal et d'accord. C'est passé dans le code civil. Enfin, je pense où ça allait le passer. Ça, j'ai plus regardé depuis quelques mois. Mais ça reste. C'est la même chose.
Mais en même temps, c'est pas illégal. Il y a des milliers de femmes qui se font avorter chaque année en Belgique, j'imagine.
Oui, mais ça reste. C'est le problème que ce soit dans le code pénal.
Oui, non, mais je comprends. Mais
parce que ça reste que dans la tête de certains, ça reste un crime.
Oui, c'est pour ça que c'est dans le mauvais code. Ouais.
Oui, et c'est un gros problème, parce que quelque part, c'est pas un crime.
On est passé. En fait, le problème moral, c'est qu'on passe de la religion, quelle que soit la religion du pays, qui, d'habitude, musulmane, chrétienne. Interdit. On passe à un code pénal, étatique mais pénal. Donc c'est le côté tu es coupable.
Ouais.
Et puis au troisième système, qui est juste un système sanitaire, c'est la santé, que ce soit mentale ou pas mentale, physique.
Apparemment, la loi pour le sortir du Crimes Act a passé son premier reading le 8 août.
Voilà, mais donc c'est pas encore.
94 contre 23 votes. Et donc, c'est maintenant avec un select committee pour...
Voilà, mais donc, c'est pas encore des...
Oui, mais ils peuvent select committee, ils peuvent faire encore des tripatouillages
etc. Voilà, mais donc, c'est pas encore complètement... Et ça, c'est quelque chose, c'est important aussi. Ça veut dire que dans l'esprit de la femme qui se fait avorter, quelque part, ça continue à être considéré comme un crime qu'elle a le droit de commettre.
Oui.
Et c'est important, et ça fait partie des choses qui sont bien expliquées dans cette BD.
Mais en même temps, le système en Nouvelle-Zélande, je ne connais pas, mais on ne va pas voir les flics pour se faire avorter, on va voir un docteur.
Oui, mais tu dois
justifier que ça va influencer ta santé mentale ou physique pour avoir le droit de le faire.
Et donc
n'importe qui veut le faire dit « Oh, ça va affecter ma santé mentale ». C'est toujours accepté, mais tu dois quand même invoquer ce...
C'est la même chose. Alors, le système français, que moi j'ai vécu personnellement, c'est pas un système pénal, c'est pas dans le code pénal, Mais c'est les mêmes questions que le docteur pose.
Oui,
c'est-à-dire
mais si,
qu'il veut savoir si c'est... il dit, si vous pouvez garder l'enfant, l'élever, et vous avez un partenaire, il peut dire, mais...
Donc le médecin peut dire non, alors même voilà, si la femme veut dire non.
Vous n'avez aucune raison d'avorter.
Et donc c'est là qu'est le problème, parce que ce n'est pas le choix de la femme. Il y a quand même encore... Donc c'est encore, même si les flics n'ont pas besoin d'intervenir, ça reste un crime que tu as le droit de commettre avec le consentement de ton médecin s'il considère que tu remplis les conditions. Et c'est là qu'est le problème, en fait, pour moi.
Musique ?
Musique, ouais.
Donc voilà, je vous recommande de lire il fallait que je vous dise de Aude Mermillon aux éditions Cartes.
C'est toi qui as mis la musique ou c'est moi ?
Ouais, j'ai mis de la musique.
Oh, bon. J'ai peur.
Voilà, c'était « Il suffira d'un signe » de Jean-Jacques Goldman.
C'est du vieux, ça. Hein.
Je ne sais pas si c'est un rapport avec la discussion qu'on a eue, mais voilà.
C'est Jean-Jacques.
C'est Jean-Jacques.
Alors,
à ton tour.
À mon tour ?
Ouais.
Bah, c'est une série. Alors, c'est une série. Je t'en avais parlé ou pas pour les enfants, peut-être hein ?
Ouais, on les a.
Vous les avez ? Le monde de Milo. Vous t'en avez parlé ?
Il y en a 4, c'est ça, non ?
6 maintenant.
Ah, on n'a toujours que 2,
non ? Non, on a acheté le 3 et le 4.
J'en ai toujours que 2.
En juillet.
Je vais essayer de me ramener le 3, 4, 5 et 6.
On a 3 et 4 à la maison.
Ce sont des cycles, un petit peu aussi. Donc, bah, là, j'ai que 2, le 1 et le 2. Comment j'ai découvert ça ? C'est il y a 2 ans au 40.
Tu peux donner le titre, peut-être ?
Le monde de Milo. Ah, voilà, ça, c'est le grand titre. Et puis après, il y a des sous-titres. Il y a le numéro 1, puis il y a le numéro 2 dans ma main.
Parle bien dans le micro.
Pardon. Oui, d'habitude, je suis trop fort, mais tu vois, je vois pas de sous-titres, 1 et 2. Voilà, pour le premier tome, il y a des sous-titres, je crois, pour 3 et 4 et 5 et 6. Puisque c'est des genres cycles, 1 sur 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, le monde de Milo, donc c'est un petit garçon, une petite fille. Bon, c'est des pré-ados, hein, c'est des twins, je sais pas, je m'en rappelle plus de l'âge.
Ils ont l'air assez jeunes, hein, quand même.
Oui, c'est jeune, mais c'est genre 10 ans, peut-être,
ouais,
pas
voilà,
6.
Ouais.
Et
ouais.
Puis. Ou 10-12 ans, voilà. Donc, c'est pas des adolescents, mais ce sont pas des petits-enfants. Et puis, ils vivent des aventures, ils viennent pas du même monde. Donc, il y a un échange de mondes, un monde virtuel ou monde réel, des mondes parallèles. Des mondes parallèles, voilà. Il y a des sorciers, il y a des monstres, enfin, il y a des monstres, des gens qui ressemblent plus au crapaud qu'à autre chose. Donc, c'est des aventures un peu rocambolesques, mais aussi des aventures magiques. Il y a de la magie dedans, etc. Et puis, il y a le rapport fille-garçon, un peu, dans le thème, puisque le héros rencontre sur l'autre monde une jeune fille. Et puis, il y a le rapport du bien et du mal, puisqu'en fait, ils sont... Et c'est ce que j'ai bien aimé. Mes enfants qui lisent pas souvent du français ont beaucoup aimé la BD, même ma petite fille de 8 ans, parce que elle comprend pas du tout un mot de français, mais les images sont bien faites, ça reste approchable. Et
pour tous ceux qui essayent de faire lire en français leurs enfants, la BD c'est une bonne façon,
introduction,
parce que par exemple nous notre fille elle préfère lire en anglais, mais les BD elle lit en français.
Et ben voilà.
Et donc le monde de Milo c'est une bonne.
Ouais, moi je trouve.
Il y en a plein pour enfants qui sont bien. Il y a Sardine de l'espace de Sfar. Notre fille adore.
Voilà, Sardine de l'espace. Et donc, alors là, les auteurs, ce sont Marazzano et Ferreira. Et qui sont un parisien, l'autre est du sud de la France, je ne m'en rappelle plus. Ferreira, Christophe Ferreira, c'est le dessinateur. Marazzano, c'est l'écrivain. Il fait les couleurs aussi, Ferreira, qui sont assez chouettes. J'aime bien le. Il change ses trucs. Je voulais parler des 48 heures BD, parce que c'est assez rigolo. Les 48 heures BD, je me rappelle pas quel âge ça et si ça dure tout le temps, mais je crois que c'est presque tous les ans et ça dure pendant 2 jours, 48 heures. Et d'habitude, ils essaient de vous vendre un livre, genre le tome 2 de Démons de Milo, qui lui est sûrement vers les 10 euros ou quelque chose. C'est par Dargaud. Hein. Et puis, ce jour-là, pendant 2 jours, j'avais le numéro. Ah non, le tome 1 pour 2 euros seulement. Donc c'est pas cher.
C'est où que tu vas pour avoir les 48 heures BD ?
Bah en France, j'imagine, mais est-ce que c'est des Dargaud, il est franco-belge, donc je me suis dit peut-être que c'est en
toute la France.
Tu peux l'avoir en ligne.
La RATP, je ne sais pas. Si il y a Visite Bruxelles, tiens, qui sponsorise, il y a la RATP.
Et le soir, Spirou, RTL, c'est belge.
Oui, c'est tout belge, donc c'est franco-belge et c'est sur tout le territoire, à mon avis, du Benelux et de la France. Mais et donc c'est bien les 48 heures BD parce que quand on va chez son libraire, même après le 48 heures BD, ne le dites pas. Tout le monde, et que vous êtes copain avec le libraire depuis 20 ans, comme moi, je la vois qu'une fois tous les 3 ans, mais elle est contente de me voir. Ma libraire BD est dans mon village de Normandie. Et ben, cette jeune femme me dit tiens, j'ai un peu encore des 48 heures BD en rab.
Et elle te les donne.
Et donc, soit elle me les donne ou elle me les fait pour 1 euro.
Je vais dire à mon libraire, parce que j'ai aussi mon libraire préféré à Bruxelles, et il m'a pas fait les 48 heures.
Mais parce que souvent, on les a déjà, c'est ça le problème. J'ai un peu le problème que souvent, c'est des numéros 1 de série ou qui sont à 3, 4.
Il m'a dit que j'étais une de ses meilleures clientes.
Et malheureusement, si c'est des séries qu'on aime déjà bien, on les a souvent soit lus à la bibliothèque, soit déjà achetés. Mais là, je suis dit, j'ai vu du pot, parce que je n'avais pas acheté ça. J'achète pas souvent des BD pour enfants. Mais c'est pour enfants parce que l'histoire est enfantine, mais pas enfantine légère. Je suis adulte, bientôt 50 ans, et j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve ça très, très bien écrit, très bien dessiné. Le côté dessin, c'est semi-réaliste, semi-manga, c'est-à-dire qu'il y a la tête ronde et les gros yeux. Mais à part la tête ronde et les gros yeux, ça reste assez réaliste. Il y a des beaux paysages, la mise en couleur est bien faite, les traits sont assez réalistes. Là, je viens de tourner au pif et le vélo, il est réaliste. C'est pas du manga ou du Astérix ou le gros nez et tout ça.
Il y a beaucoup de BD pour enfants qui sont pas mal. Enfin, moi, j'aime bien les lire.
Oui. Mais il y en a, c'est typé enfant, c'est-à-dire gros gag. C'est pas Boule et Bill, quoi. Boule et Bill, j'aimais bien quand j'étais enfant. Puis adolescent, j'aimais encore un petit peu. Puis à 20 ans,
j'ai... Oui, mais Boule et Bill aussi, ça a mal vieilli. Je veux dire, maman, voilà. C'est un peu comme Petit Ours Brun, quoi. Maman est à la maison, elle cuisine.
Oui, il y a ça aussi.
Et papa rentre du travail pour manger, quoi.
Voilà, donc ça
papa
vieillit.
Papa est beaucoup à la maison dans Boule et Bill, hein.
Oui, papa, ouais, c'est vrai. Il fait que ça. Oui, en fait, maman n'est pas souvent là. C'est papa qui joue souvent avec tout le monde.
C'est ouais. Souvent papa qui fait les câlins. Hein.
En plus, ouais.
Ouais. Mais il fait pas à manger, papa, dans Boule et Bill.
Si, mais alors, quand il le fait, il ne crame pas.
Fait, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est dans le Petit Ours Brun. Ouais.
Enfin, voilà. Donc,
où il aide maman à faire à manger.
Ouais. Alors, le numéro 1, il y avait 66 pages. Le numéro 2, il y a 56 pages. Vous savez combien il y a de pages? Parce que, au début, quand j'ai vu, c'est un format cartonné, grand, normal, BD franco-belge. Donc, je me suis dit, oh, c'est du 48 pages, comme c'est une série. Eh ben non, 66 la première BD, 56 la deuxième.
Ça, c'est ta date, David, combien de pages?
Bah oui, parce que le tien aussi, attends, quand c'est du 300 pages, on est content quand même. Hein,
ouais.
Ça fait du beau volume, mais je sais pas, j'ai pas regardé pour les autres bouquins, mais à mon avis, si ça va crescendo, on se retrouve à 46, puisque 66, 56 pour le deuxième.
Ça m'a fait rire parce que donc samedi dernier j'étais en Belgique chez mon libraire préféré.
Voilà, et t'as pas donné les 48 heures BD.
Non, il m'a pas donné les 48 heures BD, mais en fait il y a une anecdote, c'est qu'il y a une dame qui est revenue pour échanger un cadeau que son fils avait reçu parce que elle trouvait que la BD était sans doute pour filles parce que l'héroïne était le héros était une héroïne. Ah oui. Et alors j'ai beaucoup ri parce que le vendeur, donc il y avait un vendeur et une vendeuse, mais c'était le vendeur qui lui a répondu, qui dit ah mais non, il y a aucun problème, on conseille souvent cette BD là pour les garçons. Et moi j'étais du même avis, ça c'est pas parce que le héros est une héroïne que les garçons peuvent pas la lire, parce que.
Et c'est pour ça que c'est rigolo, parce que
si les filles devaient lire
deux, il y a un garçon et une fille.
Mais si les filles devaient lire que des histoires où le.
Filles, ouais. Ou avec des chevaux et des cœurs et des princesses, ouais.
Et que le héros. Ou que le héros est une fille.
Il n'y a plus grand-chose.
Mais quoique, ça remonte à pas si longtemps, il y a 30, 40, 50 ans, il y avait Bibliothèque Rose pour les filles, puis il y a Bibliothèque Verte pour les garçons.
Moi, j'ai lu la Bibliothèque Rose, moi.
Moi pas beaucoup, hein. J'en ai lu qu'un ou deux, mais surtout
j'adorais moi, oui.
Oui, mais le héros c'était un garçon.
Voilà, oui,
c'est quand même la Bibliothèque Rose.
Tu as raison.
Voilà. Oui, mais j'avais été un
T'as
peu
été choqué, j'imagine, qu'en 2019 en Belgique on ait encore envie de livre pour garçons, pour les garçons.
Mais surtout parce que le héros était d'une fille.
Et tu as dit à la dame et au petit garçon, bonne chance, parce que dans le futur, pas si loin, quand tu seras adolescent, à l'âge de 15 ans, 98% des autrices sont des auteurs féminins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui écrivent.
C'est vrai?
Ah ouais, en fait, la littérature mondiale, dans les statistiques, c'est comme l'université. 60% à l'université, c'est des filles. Maintenant, 70%. Eh ben, pour les écrivains, les écrivaines, les autrices, tout ce vocabulaire.
Et ceux qui reçoivent les prix, ça reste des garçons.
Oui,
bien sûr,
oui,
c'est normal.
Oui, non, ouais, parce qu'on est beaucoup plus intelligent, c'est facile à dire. Non, je rigole.
Non, j'ai pas engagé parce que j'avais qu'une heure dans ce magasin de BD et je me suis dit que j'allais me concentrer sur
plaisir. Et le lecteur moyen, à 70% aussi, c'est une femme. Donc, ça
vous faites
là.
Quoi alors? Vous écrivez pas? Vous lisez pas?
On lit pas beaucoup. Et on écrit pas beaucoup.
On fait de la gym et on boit des bières. Hein.
Ouais, et puis
on
regarde le rugby assis sur la télé ou on travaille sur sa motobillette ou son bateau.
Un motobillette.
Ou on étudie la lumière.
Voilà.
Moi aussi j'étudie la lumière. Et je lis des BD.
Ouais. Ok.
On se remet une petite musique.
Donc pour le nombre de pages, oui. Le 3 et le 4, c'est 54.
54
pages.
Pile poil les deux. Merci, Steph. Voilà. Il a bien cherché sur BDTech. Hein. C'est ça, c'était sur BDTech.
Parce qu'on les a achetées, donc elles sont dans ma base de données.
Voilà.
BDGest. Si vous avez plein de BD, vous pouvez installer l'app BDGest. Et alors, vous scannez les codes barres et hop, ils mettent tout dans.
Il y en a deux ou trois des
apps. Et si vous, de toute façon, si vous en achetez en double, vous pouvez les donner à David ou à moi.
Oui, voilà.
Et vice versa. Parce qu'on va avoir une base de l'année avec Tunda Mele, on revient encore à l'acheter en double.
Ouais, mais...
Sûrement, oui, ça va nous arriver. De
c'est temps déjà temps. Arrivé à Fred d'acheter deux fois la même BD le même jour, dans deux magasins différents.
Ah ouais, non, j'ai pas fait ça encore. Non, très fort. Par contre, sinon, moi je conseille ça, ouais, à partir de 6 ans même.
Donc le monde de Milo, hein, c'est ça. Hein.
Pour les filles et pour les garçons, parce que ça se trouve. Et comme je disais, j'ai bien aimé parce qu'il y a un côté, tout le monde n'est pas... tout rose ou tout vert, tout le monde est mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire les bons c'est pas des si bons que ça et les gentils c'est pas des si gentils que ça et les méchants c'est pas des si méchants que ça aussi. Donc,
mais ça c'est un truc pour ceux qui ont notre âge et qui ont lu la BD quand ils avaient 10 ans, ça a quand même beaucoup évolué.
Évolué oui, parce que dans le temps c'était, bah, pas que la BD, les films aussi c'était le bon, il était tout le temps bon et le vilain était très vilain quoi, c'était
et
ça.
Et blanc souvent.
Oui oui oui. Et le très vilain était basané ou barbu ou autre chose.
Ou russe.
Donc, moi je recommande ça pour les. À partir de 6 à plus tôt, ça va être un peu difficile. Peut-être au vocabulaire. Et puis, je pense que c'est un peu plus élevé que ça aussi, 7-8 ans. Ma fille s'est bien amusée à 7 ans avec. Mais je pense que mon fiston à 10, 11, 12 est beaucoup plus amusé qu'elle.
Ouais, et il y a plein de BD pour enfants en fait qui sont très très bien à lire. Ouais. Il y a Le Royaume, il y a les extraordinaires aventures de Jules dont on a parlé.
Les chroniques du temps, et
Sardines de l'espace.
Voilà. Alors en musique, c'est
David qui choisit la musique.
Ouais, c'est moi. Alors on y va. Je me branche sur l'ordi. L'ordi fait du bruit. Qu'est-ce qu'on se raconte? Ça va être une musique que j'ai sauvegardée. On va faire. Oh bah, monsieur Spotify, il n'est pas content. Alors attendez, il faut que je le retrouve.
J'en ai une toute prête, moi.
Attends, je suis là, mon gros. On arrive en meuble. On parle de quel livre juste après, pendant que j'ouvre mon truc?
Ah ben, je vais vous parler du deuxième tome des Crocodiles. Les Crocodiles sont toujours là. J'avais parlé du premier tome il y a quelques années. C'est encore dans la BD féministe.
Il y a un thème, là.
Bah, t'es pas une femme, toi?
Et la musique, elle arrive, hein?
Elle arrive.
Sinon, j'en mets une, moi. Hein.
Du thème...
Bon, je mets la mienne, là. C'était pas prêt, là, j'ai un peu de
Non, j'ai envie de passer la mienne. C'est du belge.
Tu l'as choisi, déjà, ou tu cherches désespérément?
Non, vas-y, lance, parce que j'en ai marre. Je vois pourquoi ça marche plus.
Ok, on va écouter Désenchanté.
C'est de qui?
De Vilaine Fermier, de Vilaine Pharma, pardon.
Vilaine Pharma. Elle était belge, hein?
Elle est belge, Vilaine Pharma?
Non.
Elle est pas belge?
Non.
Oh,
Chante bien, Stéphane.
Voilà, on est désenchanté avec le climat, l'avortement. Je sais pas moi.
On dit bonjour à Séverine.
Bonsoir, bonsoir Donald Trump, Boris Johnson. C'est très d'actualité cette chanson.
Bonsoir.
Ah oui, il y a Séverine qui est arrivée.
Qu'est-ce qui est d'actualité?
Être désenchanté avec tous les problèmes, les nuages noirs qui s'accumulent au-dessus de notre tête.
Bah, c'est pas un sport.
De Donald Trump au changement climatique, en passant par machin Bolzano et Boris Johnson. On commence à les collectionner. Hein. Bon, spécial BD.
Spécial BD. Donc, moi, je vais vous parler d'une
BD. Il y a une dame, il y a Juliette.
Oui, mais c'est quelque chose qui a été lancé par Thomas Mathieu. Donc, les crocodiles sont toujours là. Et donc, en fait.
C'est le titre.
Oui, les crocodiles sont toujours là. Il y a eu un premier tome qui s'appelle Les crocodiles. Et donc, en fait, c'est au départ un site web. Et ça a été lancé par Thomas Mathieu. Et c'est.
Et quel site web? Crocodile?
Les crocodiles. Le site web, je sais plus comment il s'appelle. Je vais re-regarder.
Je vais chercher.
Et donc,
oui, il interrompt beaucoup ce.
Oui, je n'interromps pas, j'anime le débat, je pose des questions.
Oui, mais rapidement. Hein.
Sauf qu'il interrompt quand même.
Bon, d'accord, je ne dis plus rien, l'émission, ça va être un long monologue.
Mais non, mais il faut se poser, tu vois,
tu
attendre
peux
la
qu'on
réponse.
Ait fini une phrase. Bref, le site web, le site internet s'appelle Projet Crocodile et ça a été créé en juillet 2003 par Thomas Mathieu. Et en fait, qui est un féministe. Et il faut savoir que ça a commencé bien avant le projet MeToo. Et je voulais parler de cette BD parce que j'ai eu une discussion avec une amie. C'est que on est bien d'accord que le projet, que tout ce qui est MeToo et tout ça, c'est à propos du harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la drague. Et donc, moi, je suis contente quand quelqu'un me dit que je suis jolie. Je suis contente quand quelqu'un badine avec moi.
Mais oui, t'es belle. Mais...
Ça y est, voilà. Pour rire.
Mais donc, mais par contre,
tu t'es passé du joli à la belle.
Moi, j'attends qu'elle parle. Je trouve que c'est joli ce qu'elle dit.
Et donc,
on n'a pas la télé, hein, mais elle est rouge comme une pivoine.
Et tu viens de l'interrompre, là, non?
Voilà, et là, ça va commencer à tourner au harcèlement quand vous m'interrompez tout le temps. Et donc, en fait, on parle surtout de harcèlement. C'est quand, à partir du moment où quelqu'un fait clairement sentir qu'il n'est pas content ou qu'il n'a pas envie, c'est là où ça devient du harcèlement. Et donc, en fait, le projet Crocodile, c'est un site web où les femmes peuvent juste déposer des témoignages. C'est un peu comme il y a Vie de merde par exemple, voilà, qui sont sur des témoignages sexistes, genre le plombier qui veut pas réparer le robinet parce qu'il faut demander à monsieur ce qu'il en pense. Et en fait, les crocodiles. Donc l'idée, c'est que ils représentent donc les hommes normaux entre guillemets sont représentés comme des hommes et les hommes harceleurs sont représentés comme avec des têtes de crocodiles.
Vert souvent.
Ouais. Donc en
on
fait,
les
c'est,
voit bien parce c'est qu'ils
voilà.
Aux yeux, hein, parce
donc
qu'ils
c'est
la BD.
Et l'histoire, elle parle. C'est quoi l'histoire?
Donc c'est toutes des BD en noir, blanc et vert. Et donc en fait, c'est toutes des petites histoires et qui sont des témoignages de femmes où elles racontent.
Donc c'est des histoires vraies.
C'est des histoires vraies et c'est des histoires de harcèlement. Alors il y en a qui sont anodines du genre allez. Et en fait c'est quand même c'est toujours du harcèlement. Et puis il y a des histoires de viol et donc notamment il y en a une où il y a une femme qui se fait violer et qui après veut déposer plainte et ça se passe pas beaucoup mieux. Et dans cette histoire-là, notamment, une des policières est en vert et donc c'est pour bien montrer qu'elle
aussi,
elle a peine tête de crocodile et donc mais elle est moite quoi.
J'ai quelque chose à te dire. C'est un livre français ou belge?
C'est français, je pense.
Alors c'est intéressant parce que il y a deux jours, j'ai écouté un podcast ça se passe en France actuellement sur les viols et les harcèlements d'enfants. donc d'enfants petits, ça commence à 18 mois, 3 ans, 4, 5 ans, 12, 13 ans, qui vont dans des maisons de résilience après avec leurs parents, c'est-à-dire retrouver un petit peu... Bon, ils sont complètement cassés en mille morceaux quand ça leur arrive. Et pour se reconstruire, on a des maisons où, alors on dit pas où c'est, ils sont filmés de derrière, les voix sont changées ou c'est flou.
Mais donc c'est pour les victimes ou c'est
oui,
pour...
c'est pour les victimes. Parce que après avoir quelques témoignages de mères, parce que c'est pas tellement les enfants parlent pas, ils sont voilà, et c'est les mères qui racontent complètement choquées, et je me mets à la place, donc elles sont déjà courageuses de parler. Ces témoignages, c'est quand on va porter une plainte, elle n'est pas reçue, elle n'est pratiquement pas entendu, et ça ne donne, parce qu'on ne croit pas les enfants. Alors les femmes qui rapportent quelque chose, elles sont souvent dans un c'est souvent leur compagnon, elles sont dans un état traumatique, et elles ne sont là non plus pas entendues. Donc en France, c'est le pays où il y a moins de plaintes d'assaillants qui sont poursuivis de toute l'Europe. On est vraiment le très mauvais élève oui, en Europe en tout cas.
Mais c'est aussi pour enfin
désenchanté.
Désenchanté, mais c'est
non, mais c'est bien d'en parler. Et plus oui. on en parle, mieux c'est. Donc il faut en parler.
Mais donc
c'est important pour que le système juridique, donc policier juridique, change. Parce que j'ai l'impression que donc, même si les dames en parlent, ça va pas changer grand chose si la police n'écoute pas et les juges ne légiferont
pas. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui portent plainte parce que, par exemple, sur 700 cas, ils nous mettaient ça sur un tableau. Donc, 700 personnes qui se font agresser ou violer, il y en a peut-être 30 qui portent plainte. Donc, t'imagines le nombre de cas de gens qui se sentent. Et dans les 30 qui portent plainte, il y en a 0,1-3% qui va avoir un effet, c'est-à-dire qu'on va poursuivre la...
Mais donc c'est tout l'idée de ce projet Crocodile, c'est qu'en fait enfin le viol c'est la fin du spectre du harcèlement, on est bien d'accord, c'est souvent commis par des gens qu'on connaît. Enfin, par des gens que la victime connaisse. Oui. Et donc, en fait, c'est pour dénoncer ce harcèlement quotidien qui se passe et pour montrer. Et la façon dont c'est dessiné et la façon dont c'est dépeint et le fait que ce soit, à mon sens, le fait que ce soit un homme qui a commencé cette. C'est dessiné d'une façon assez objective, on va dire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est des histoires racontées par les femmes. Et donc, ça permet de montrer pourquoi c'est dérangeant. Pourquoi, à quel moment est-ce que... pourquoi est-ce que c'est pas de la drague? Pourquoi est-ce que c'est du harcèlement? C'est que c'est pas une discussion...
équitable. Hein.
Voilà. Oui. Non, c'est pas une discussion, c'est pas du badinage. C'est qu'à un moment donné, il y a clairement, d'un côté, quelqu'un qui dit « non, arrête ». Et de l'autre côté, quelqu'un qui dit, t'es pas vraiment en train de dire non. Et donc, il y a plein d'histoires. Enfin, j'ai pas encore lu toutes les histoires de celui-ci parce que je l'ai acheté samedi.
Des petites histoires d'une page ou deux pages, quatre pages, six pages, ou ça change tout le temps.
Entre deux et six, sept pages. Mais donc c'est minimum deux et c'est. Je me demande s'il y en a pas certaines, c'est juste des tiers de page. Ouais. Donc ça dépend un peu de la. De l'ampleur. Et le spectre d'histoire, c'est de du père qui envoie son fils avec des petits mots scabreux ou qui veut faire une photo ouais mon fils il drague et il veut faire des photos avec deux blondes qui discutent sur un banc à l'histoire de la fille qui se fait violer au milieu de la nuit et qui met deux jours à aller à la police et qui du coup en fait sa plainte n'est pas reçue parce que au bout de deux jours les caméras sont effacées donc il y a pas de preuve. Et voilà. Et donc ça vaut la peine d'être lu.
De toute façon, c'est un sujet, c'est l'omerta du silence qui fait que de la honte, les victimes qui se sentent en fait coupables. Donc, plus on en parle, plus il y a des livres qui traitent du sujet, des BD, mieux c'est. Parce qu'on peut, d'abord, on est prévenu. Si c'est pas arrivé dans une famille, ben on peut en parler. Si c'est arrivé dans une famille, c'est encore plus... d'actualité, j'allais dire. C'est très bien qu'il y ait des...
Et donc, il y a même certaines histoires qui se rapportent aux présentateurs télé ou à la politique. Donc, oui. c'est pour dénoncer le harcèlement quotidien et le sexisme quotidien qui existe et qui... Et qu'il ne faut pas confondre avec le fait...
C'est pas du cas par cas, c'est aussi au niveau social. Il y a le journaliste, il y a la télé ou je ne sais pas quoi.
Voilà. C'est sociétal.
Voilà, mais ça vaut la peine. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que de temps en temps, c'est une femme. Il n'y a pas que les hommes qui sont des crocodiles.
C'est une attitude, en fait.
Voilà.
Et vous avez vu ce petit film où là, on met c'est les femmes qui deviennent... Tu l'as vu, tu vois,
je ne suis pas un homme facile.
Ouais, c'est ça. C'est génial, parce que c'est tellement...
J'ai rien compris.
T'as rien compris, tu l'as vu?
On a vu la moitié, et puis je ne m'attendais pas à ça. Alors, j'ai mis un temps à entrer dans le bain, et puis après, on a arrêté, et puis on n'a pas vu la deuxième moitié. Enfin, bref.
Non, moi, j'ai vu tout le film, et ça...
Il faudrait que je voie en entier.
Moi aussi, j'ai vu tout le film, et j'ai bien aimé.
Mais je trouve que c'est flagrant, quoi. Je veux dire, c'est flagrant le fait que la femme embrasse le gars et puis à un moment donné il dit écoute, tu vas me raser ses poils parce que moi ça me dégoûte. je trouve que c'est tellement vrai, c'est tellement...
Ou alors elle le siffle, et lui se demande ce qui se passe, mais en fait ça arrive tout le temps.
C'est aussi quand, tous ces trucs, bien quand elle lui montre ses pectoraux.
Bah, en Europe.
Et qu'elle fait, c'est du dur, regarde. Je trouve ça génial. Enfin bref.
C'est bien de voir de renverser le miroir.
Ah, ouais.
Mais il y avait un court métrage qui avait été fait une dizaine d'années aussi par des Françaises, qui était exactement la même chose, mais c'était un très court métrage, genre 5 minutes, mais encore plus choc, et qui était sur YouTube pendant quelques années, mais je ne me rappelle plus du titre ou quoi que ce soit.
Et alors aussi, mais ça, je n'ai pas encore lu cette partie-là, mais un des aspects qui est nouveau dans Le Crocodile, c'est aussi l'aspect médical. Et donc, ça a un rapport avec le premier livre dont j'ai parlé. C'est le jugement que certains médecins hommes vont avoir vis-à-vis de la femme et la façon dont ils vont soigner ou pas soigner les femmes, notamment dans tout ce qui est la sphère gynécologique. Donc,
intéressant.
Donc, c'est intéressant. Voilà.
Donc,
mais ça,
toi,
j'ai pas encore
lu. Tu l'as acheté quand tu étais en France il n'y a pas longtemps
En Belgique, c'est vrai.
En Belgique, c'est vrai.
Non, mais il y a à peine deux semaines.
Comme c'est un livre français, mais oui, mais moi je sais pas où elle va tout le temps, tu sais.
Oui, c'est surtout que la Belgique, la BD, au départ, c'est belge. Hein.
C'est Casterman. C'est Casterman et c'est. Combien de pages? C'était beaucoup, c'est encore un pavé.
Ah, combien de pages? Bonne question.
Mais genre du 300 pages, quoi, 250 ou quelque chose. C'est un gros tome.
Donc ça vient de sortir, c'est 2009.
2009.
2019. Ah, 2019, et c'est combien de pages?
J'ai 36 ans.
Et 177 en belge.
177 en traduction.
Voilà.
Bah moi, je suis preneuse quand tu l'auras lu.
Voilà, je ne l'ai pas encore lu, donc je vais d'abord terminer. Voilà, et donc ça,
vous
c'était.
J'ai pu lui faire toutes vos revues de BD. J'ai loupé, mais j'ai
on ne peut pas faire une deuxième émission avec la pile de BD qui reste.
On va se dire au revoir pour ce soir. Nous sommes.
Et il faut nous mettre une musique cette fois.
29 septembre, et on passe la musique.
29 septembre.
Ça s'appelle 29 septembre. On est dimanche 29 septembre ce soir.
Et la musique, c'est.
Ah, dans deux jours.
Paris Corbeil par Boulevard Désert. Ça
Paris
vous dit
Corbeil, ça me
Paris Corbeil. Merci. Allez, c'est parti, Edmond Kiki.
Au revoir tout le monde.
Bonne nuit.
À
merci
la semaine prochaine.
Au revoir. À la prochaine. Merci Fred, merci
bon
Steph.
Bon dimanche.
À ciao.
Si on allait moins bien ensemble, on irait mieux, où bon nous semble. Si j'avais oublié ton visage, je me pavanerais davantage. S'il y avait moins de si dans l'histoire, j'aurais perdu le goût de voir. Ici, ici, hier aussi. J'ai laissé une bouteille dans Paris. J'aurais pu faire le joli cœur, me mettre en scène pour ces dames. En bas des marches du Sacré-Cœur, en bord de Seine, près de Notre-Dame. J'aurais pu parler de nous deux, en enlaçant une autre au pieu. Mais je ne t'oublie pas ma vieille. quitter Paris pour Corbeil. Et il faudra se lever tôt pour retrouver le goût de la cerise. Derrière chaque col de chaque manteau s'entend comme cul et chemise. J'en vous ferai des parts du gâteau jusqu'à l'overdose, ma promis. Si toi ma faible joue sur les mots, c'est le gâteau sur la cerise. Se promener sur le quai des grands Augustins, l'alcool en bouche près du grand palais qui me fait perdre le goût du pain, le goût du vin au goût du jour, depuis que t'es où mon amour, que t'es parti sans crier gare. Je traîne dans le quartier Saint-Lazare, et il y aura d'autres métros qui suivront les lignes anonymes. Celle de plus, celle de trop, qu'on voyait bien rue des favorites. Mais sur moi ta mort triomphe ma vieille, et ma belle, donne-moi la main. Je parie mon dernier verre de vin. Je prendrai plus Paris pour Corbeil. Sur le fil.
On n'en voyait plus trop la fin.
Mais une fin pleine de style.
Une fin qui ne demande rien.
Nous la cherchâmes corps et âme.
Nous la cherchâmes corps et âme.
Nous nous perdîmes à la. On rembobine le fil du temps.
On se dérouge qu'au firmament.
On embobine les étoiles.
Et on s'abîme sur la toile.
Au fond la fin vient en chantant.
Au fond la fin vient en chantant.
Au fond la fin ne me dit rien.